Europe Matin.
6h, 9h, Lionel Gougelot.
8h44, l'heure du Club de la Presse du lundi sur Europe 1. Bonjour Guillaume Bigot.
Bonjour à vous, bonjour à tous.
Politologue et éditorialiste, membre de la revue Front Populaire. Bonjour Benjamin Morel. Benjamin Morel est-il en ligne avec nous?
Oui, je vous entends.
Bonjour Benjamin, maître de conférence en droit public à l'Université Paris 2 Panthéon, Assas. D'abord messieurs, est-ce que vous avez passé un joyeux Noël, Guillaume Bigot?
Ah oui, très très joyeux Noël, peut-être un peu trop joyeux d'ailleurs, mais je récupère bien du joyeux Noël.
Pas trop gâché par la grève de la SNCF?
Non, j'avais la chance de pas avoir besoin de train pour
Benjamin Morel.
Prendre le réveillon.
Oui, excellent Noël également, le Père Noël existe, je peux en témoigner.
Un week-end studieux, hein, d'après ce que j'ai pu voir de votre côté. Messieurs, on va parler de la grève de la SNCF, qui s'achève ce matin. Le trafic redevient normal en ce lundi matin. Le nouvel an est épargné grâce à des négociations de dernière minute. Benjamin Morel, quel enseignement on peut tirer de cette séquence, finalement, de cette grève et de la façon dont elle a été gérée aussi bien par la direction et le gouvernement?
Bah, c'est un gros sujet, si vous voulez. Je crois que le premier enseignement, c'est que dans une période d'inflation généralisée, où les syndicats ont perdu quasiment toute leur bataille depuis 1995, et donc ils sont fondamentalement fragilisés, en grande partie dépassés par leur base, eh bien aujourd'hui, c'est un peu chacun pour sa peau. C'est-à-dire que dès le moment où vous avez une capacité de blocage, même si ça contrevient à l'intérêt général, même si, in fine, ça implique de vous mettre à dos une partie conséquente de la population à la veille d'une réforme des retraites, c'est pas un hasard si aucun syndicat ne soutenait cette grève à l'origine. Elle est anti-stratégique en réalité. Et bien, dès le moment où vous avez une capacité de négocier pour votre pomme parce que vous avez une capacité de blocage, vous y allez. On a vu ça avec Total, on a vu ça avec les raffineries, on verra sans doute ça demain dans d'autres secteurs, mais ça montre un individualisme aujourd'hui en matière de rapport au travail, de rapport au salaire et de rapport aux grands défis sociaux qui ne tait même plus son nom.
Guillaume Bigot, le fait que ce mouvement ait échappé au syndicat, ça aussi c'est quelque chose de notable, même si c'est eux qui ont déposé le préavis de grève pour faire en sorte que cette grève ne soit pas illégale.
Bah, c'est ça, en fait les syndicats, on a compris qu'ils trouvaient cette grève illégitime, mais qu'ils l'ont légalisée en déposant, donc c'est très étrange. Vous savez, Alexandre le Grand disait, comme je suis leur chef, je les suis. Voilà, parlant de ces cavaliers qui voulaient aller plus loin. Il y a vraiment deux mécanismes là-dedans. Il y a un mécanisme qui est, et Benjamin Morel y faisait allusion, qui est de plus long terme, c'est-à-dire le fait d'être dépassé par la base, par des syndicats qui sont historiquement peu représentatifs en France, mais qui ont perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup de leur superbe avec la fin des grands récits de lutte des classes, etc. Et ça, on a vu ça apparaître dans les années 90 déjà. C'était des coordinations nationales, ouais. C'était des mouvements spontanés un peu
les
comme
les coordinations d'infirmières dans les années 90.
Infirmières, Sud est né comme ça d'ailleurs. Hein, finalement, Sud, c'est une base spontanée qui est devenue un syndicat ensuite. Hein, et ils sont tout le temps dépassés par quelque chose de plus spontané, de plus pur, c'est-à-dire de pas récupérer par une organisation qui est finalement une organisation notable. Deuxième chose, il y a le mécanisme des réseaux sociaux avec la bulle de filtration, avec le fait que dans les réseaux sociaux, vous parlez à vos pairs et il y a une sorte d'autisme naturel et voire de jusqu'au boutisme qui est propre aux réseaux sociaux. Donc les deux mécanismes se mêlent. Ce qui est plus étonnant dans cette affaire, c'est quand même on est quand même, appelons ça, je sais pas si on appelle ça une séquence, parce que maintenant la communication a recouvert intégralement la politique et même la politique gouvernementale, mais on sort quand même de séquences assez tendues. C'était très étrange tout de même que le gouvernement n'ait pas eu une sorte de signal faible avec cette menace de grève dès le mois d'octobre qui a été déposée. N'en parlons même pas des syndicats, pas de la direction de SNCF, mais au moins le gouvernement.
Le gouvernement a été sourd et aveugle.
Il s'est réveillé très tard.
Oui, il a été en grande partie sourd et aveugle. Alors, il y a des raisons entre guillemets légitimes, il y a des raisons qui le sont moins. Les raisons légitimes, c'est tout bêtement qu'en effet, ça venait pas de syndicats. Or, même si les gouvernements ont défié les syndicats pendant des années, le fait est que ça reste un partenaire naturel. On l'a vu au moment de la crise des Gilets jaunes. Quand vous n'avez pas cet interlocuteur, vous ne savez pas où vous allez. Et donc là, très clairement, il y a eu une forme de naïveté vis-à-vis d'une grève qui était annoncée, dont les revendications étaient posées, dont on pourrait discuter d'ailleurs, elles sont pas toutes illégitimes, loin de là, mais dont la position était problématique. Après, il ne faut pas non plus croire que le gouvernement sort fondamentalement affaibli de cette affaire. C'est comme au moment de la crise totale. Et ce, pour deux raisons. La première raison, c'est que le gouvernement, pour des raisons économiques qu'on peut comprendre, là, encore dont on pourrait discuter, mais ne veut pas rentrer dans une grande négociation générale sur les salaires, les traitements des fonctionnaires. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises ne tiendraient pas si jamais on entrait dans cette négociation, parce qu'ensuite, ça impliquerait de creuser la dette. Donc, ce faisant, si vous avez des petits conflits sectoriaux qui ne se généralisent pas et qui sont impopulaires, ça ne présente pas forcément de problème pour le gouvernement. Le deuxième élément, en tout cas, c'est un moindre mal, largement. De l'autre côté, encore une fois, la veille d'une réforme des retraites, le fait d'avoir une profession et une entreprise qui peut être une source importante de blocage. Parce que souvenez-vous, en 2019, beaucoup de Français ont fait, en fait, grève par procuration. Ils ont considéré que les régimes spéciaux, etc., c'était pas forcément de leur goût, mais que finalement, s'il y avait des professions qui étaient en capacité de bloquer le pays et que ces professions faisaient grève et maintenaient la pression en leur nom, eh bien, autant les soutenir. Ça, évidemment, c'est la hantise du gouvernement pour le premier semestre. Si ces professions commettent des erreurs stratégiques du point de vue de la communication, bah, ça ne peut servir que servir le gouvernement. Donc pour le gouvernement aujourd'hui, c'est un mal pour un bien.
Le scénario de la grève par procuration sur des sujets sensibles que, comme la réforme des retraites, Guillaume Bigot, vous y croyez, vous je vous sens sceptique.
Oui, parce que je pense qu'il y a un effet de miroir. On parlait tout à l'heure de la perte de légitimité des syndicats, parce que simplement, les revendications individuelles ou les revendications d'une entreprise sont plus articulées avec un grand discours sur l'avenir de la société porté par des syndicats. Et ça correspond en effet de miroir à des grandes entreprises publiques qui portaient le service public. Enfin, on parlait d'un usager de la SNCF, on ne parlait pas d'un client de la SNCF. Qu'on bombarde aujourd'hui de mails avec lesquels on fait de la communication, etc. Et ces entreprises sont des entreprises privées, donc d'une certaine façon, à entreprises privées, je dirais comportement syndical privé, de revendications individuelles pour moi et pour les gens comme moi et plus pour la société. Donc le fait de faire grève par procuration, ça veut dire qu'on s'inscrit dans une histoire et que la revendication individuelle, elle est liée à une revendication collective. Ça, c'est de moins en moins vrai.
Ces mouvements de grève, ces mouvements sociaux hors contrôle des syndicats, pour dire les choses simplement, est-ce qu'il faut s'attendre que ce type d'organisation gagne d'autres secteurs d'activité, Benjamin Morel ?
Oui, parce qu'encore une fois, quand je parlais de grève par procuration, vous avez des syndicats au niveau national qui peuvent avoir une stratégie nationale. Et ces stratégies nationales, aujourd'hui, impliqueraient, si jamais elle était maintenue, d'être à la fois dans une forme de tempérance, puis dans une forme de bras de fer au moment des grandes réformes, avec l'espoir d'un soutien des Français au moment où ils en auraient besoin. Dès le moment où vous avez des syndicats qui sont vus, y compris par une grande partie de leur base, comme étant dans une approche totalement irréaliste, parce qu'en incapacité de rentrer dans un bras de fer général. Dès le moment où vous avez des professions qui ont une capacité de blocage, et à travers cette capacité de blocage, eh bien pour éviter justement cette généralisation du conflit que craint le gouvernement, une vraie capacité à faire avancer des revendications sectorielles. Eh bien, forcément, entre guillemets, ils en usent. Regardez encore une fois la réforme des retraites de 2019. C'est le dernier exemple que l'on a en date et qui est assez marquant. Ouais. La CFDT n'appelle pas forcément à manifester ou à faire grève. Elle n'est pas forcément très enthousiasmée par la réforme, mais elle souhaite rentrer dans un processus qui est un processus de négociation, autant non. Mais elle est dépassée par sa base. Ouais. Et aujourd'hui, quand bien même Laurent Berger dirait « Attention, on rentre en négociation, voire même on accepte la future réforme des retraites », la réalité, c'est qu'il ne serait pas suivi par sa
mais
base.
C'est très dangereux.
Donc les syndicats,
en fait,
aujourd'hui, n'ont pas de capacité de négociation.
C'est le syndrome gilet jaune, Guillaume Bigot, qui peut se greffer finalement aux conflits sociaux à venir, parce que on sait l'année 2023, notamment le début de l'année 2023, sera sensible de ce point de vue-là.
Bah, les gilets jaunes sont des gens qui sont hyper individualisés, hyper archipélisés en quelque sorte, et finalement les réseaux sociaux vont servir à relier les points, donc ils vont pouvoir articuler une action collective qui, d'une certaine façon, n'a pas de... je dirais, n'a pas de tête. Et à partir du moment où une tête sort, elle va être très rapidement délégitimée. C'est ce qu'on a compris, c'est ce qu'on a vu. C'est pour ça que le mouvement est parti en déliquescence, parce qu'il y avait une phobie de la récupération politique. Mais précisément, la politique, c'est ça. C'est de passer de l'individuel au collectif. Et c'est ça qui bloque, d'une certaine façon. Et là, les syndicats, c'est fascinant ce qu'on voit. C'est-à-dire, c'est un peu comme dans les médias. Alors, il y a encore des médias traditionnels. On est sur un média traditionnel. Et puis, il y a un phénomène de disruption, les réseaux sociaux, où l'émetteur, le récepteur, le journaliste et la personne qui reçoit soit la formation, c'est un peu les mêmes, oui. Et chacun peut devenir tour à tour.
Chacun se fait son information.
Voilà. Et qu'est-ce que c'est un syndicat par rapport à Europe 1 ? C'est pareil, c'est une marque. Et donc ça va légitimer un message, vous voyez ce que je veux dire ? Oui. Donc là, il y a une information, et si elle part d'Europe 1, elle peut être vectorisée sur les réseaux sociaux. Et là, c'est la même chose finalement, un syndicat va donner la marque du syndicat pour qu'une revendication qui est apparue spontanément puisse devenir voilà, politique. Mais ça va être compliqué pour ensuite arrêter le mouvement, si le mouvement part de la base.
Ouais. Autre grève, autre malaise, celui des médecins généralistes qui ferment leur cabinet, en tout cas pour un bon nombre d'entre eux à partir d'aujourd'hui et pour toute la semaine. Des médecins qui réclament une revalorisation de la consultation de 25 à 50 euros. 50 euros la consultation, est-ce que c'est bien réaliste, Guillaume Bigot ?
C'est à la fois légitime et totalement irréaliste. Et totalement irréaliste en l'état de nos comptes publics et de la santé de la France. La France, il faut le rappeler, produit 36% de ce qu'elle consomme. Un choix a été fait stratégique au cours des 20-30 dernières années qui passe par l'euro, qui passe par la désindustrialisation massive, les délocalisations. Tout ça s'est entremêlé et aboutit à une situation maintenant... On considère à juste titre que ces charges sociales sont beaucoup trop lourdes, donc on ne peut ça tire tout le mécanisme salarial et de rémunération d'ailleurs de la production, de toute la production vers le bas. Mais finalement, c'est plutôt une conséquence des délocalisations qu'une cause. Et là, pour revenir aux médecins, oui, c'est normal après autant d'études de demander une rémunération, je dirais acceptable. Mais le problème, c'est que effectivement, le pays n'en a plus les moyens.
Ouais. Benjamin Morel, ce mouvement des médecins, il est aussi révélateur d'un vrai malaise. Hein. Les jeunes générations de médecins se détournent de la médecine libérale de ville. Et c'est une angoisse aussi pour beaucoup de Français qui ne trouvent plus de médecins.
Oui, bien sûr, c'est une angoisse. Et aujourd'hui, on est dans une situation qui fait que, eh ben, on paye un certain nombre d'années de politique erratique, hein, avec d'un côté le numerus clausus, avec une fragilisation de la formation. C'est-à-dire que aujourd'hui, le grand problème, c'est pas tant qu'on n'ait pas beaucoup de médecins, c'est qu'on n'a pas les moyens même de les former. Il faudrait arriver à développer les facs de médecine, il faudrait développer le corps professoral en médecine. Tout ça va prendre énormément de temps. On a fait des erreurs, et ces erreurs, on les paye. Mais ces erreurs, in fine, elles ne conduisent pas à améliorer la vie des médecins, c'est-à-dire qu'on n'est plus sur un élargissement de l'offre, et on en a besoin, mais pas forcément à une revalorisation de cette profession médicale. Ouais. Le problème, entre guillemets, il est double, c'est-à-dire que d'un côté, il y a la question des comptes sociaux qu'a bien exposé Guillaume Bigot, et aujourd'hui, eh bien, on n'a pas les moyens, on n'a pas les possibilités, on n'a pas les marges de manœuvre, alors que l'argent coûte de plus en plus cher, et que les taux d'emprunt se renchérissent. Alors après, il se pose des questions macroéconomiques, mais en l'état, on peut pas. Et le deuxième élément, c'est que vous avez une perte du sens du métier. Ça rejoint d'ailleurs même la question de la SNCF. Mmh. Et le métier de médecin, notamment de médecin de campagne, n'est plus une vocation. Retrouver le sens du métier, c'est quelque chose d'anthropologique et de culturel. Et ça, l'État, pour le coup, ne peut pas tout.
Merci. Merci Benjamin Morel. Merci Guillaume Bigot
d'avoir
participé à ce Club de la Presse du lundi.